Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, nous poursuivons notre série sur la situation des femmes au Moyen-Orient avec, ce samedi, un regard porté sur celles qui ont vécu directement sous la terreur islamiste en Irak. Avec la journaliste Hélène Salon, nous évoquerons un monde sans femmes sous le califat de Daesh à Mossoul. Pourtant, des femmes ont résisté malgré les contraintes et persécutions endurées. Quant au père Dubois, fondateur de l'association Yahad in Unum, de retour de plusieurs séjours dans des camps de réfugiés au Kurdistan irakien, où il a recueilli des milliers de témoignages, il constate que ce sont les femmes qui ont payé le plus lourd tribut des exactions des combattants de l'État islamique. Bonjour Hélène Salon.
Bonjour.
Nous vous avions reçu dans l'émission à l'occasion de la sortie de votre livre « L'État islamique de Mossoul, histoire d'une entreprise totalitaire ». C'est publié aux éditions de La Découverte. Un ouvrage qui était le fruit d'une série de reportages effectués en Irak pour le journal Le Monde lors de la libération de Mossoul par les forces militaires irakiennes en 2017. Dans ce livre, vous évoquez notamment la situation des femmes sous le califat de Daesh à Mossoul. Un monde sans femmes, écrivez-vous. Comment cela se traduisait-il ?
Les femmes avaient des règles très strictes qui étaient le port du voile intégral. L'État islamique avait aussi décrété qu'elles ne devaient sortir qu'en cas de nécessité. Donc très rapidement, dès juillet 2014, beaucoup de femmes ont arrêté de sortir, vraiment seulement pour faire des courses. Et encore, dans certaines familles, les hommes allaient faire les courses parce que les femmes n'avaient plus le droit de regarder un homme dans les yeux, de faire entendre le son de sa voix. Donc l'espace public est devenu un espace typiquement masculin. Et beaucoup de familles ont préféré protéger leurs femmes et les garder à la maison, sauf bien sûr celles qui continuaient à aller à l'université, qui vraiment insistaient pour continuer à y aller, et celles qui travaillaient, et souvent l'État islamique, quand elles étaient infirmières, fonctionnaires, employées publiques, voilà, il avait besoin de cette main d'œuvre. Donc même l'État islamique les encourageait à aller travailler. Mais pour celle-ci, il fallait être accompagné par un tuteur mâle. Donc ça a été un changement énorme dans la vie de beaucoup de femmes. Celles qui travaillaient n'avaient jamais eu l'habitude d'aller au travail avec un tuteur masculin. Les étudiantes n'avaient pas l'habitude d'aller à la faculté en portant une voilette devant les yeux et des gants noirs pour écrire et en étant harcelées sur le campus par la police religieuse pour vérifier qu'elles ne parlaient pas à des hommes, qu'elles portaient bien la tenue qu'il fallait. Donc c'était une pression énorme qui a fait que beaucoup de femmes ne sortaient plus de toute manière. Donc c'est devenu un espace voilà sans femmes.
Alors les témoignages que vous avez recueillis tendent à montrer dans le livre que les islamistes ont cherché à contrôler deux secteurs de la vie sociale à Mossoul, l'enseignement, l'université notamment, et la santé. Or, il y avait des femmes qui étaient médecins, il y avait des femmes qui étaient enseignantes. Comment ont-elles pu continuer à exercer ?
Alors par exemple, je vais prendre l'exemple d'une chirurgienne de 33 ans que j'ai rencontrée qui, comme je vous disais, alors avant elle allait travailler seule, même à 100 km de Mossoul, sans son père, et avec l'imposition du tuteur masculin, son père devait l'amener matin et soir, et au sein de l'hôpital, elle devait porter donc le voile intégral, des gants, des chaussettes avec des chaussures, et elle ne pouvait les enlever, elle est gynécologue obstétricienne, elle ne pouvait les enlever que dans l'espace purement féminin, là où il n'y avait pas d'hommes.
Il y avait donc une séparation entre l'hôpital homme et l'hôpital femme ?
Là, elle était dans une maternité, donc où il n'y avait que les femmes qui étaient là pour accoucher et pour les problèmes liés à la maternité. Donc elle avait, mais pas dans les couloirs de l'hôpital. Dans les couloirs, elle devait continuer à porter la tenue imposée, seulement dans les chambres, avec les patientes où elles pouvaient se dévêtir parce qu'elles étaient entre femmes. Donc c'était une pression énorme d'exercer dans ces conditions, en plus du stress, voilà, d'être dans une ville avec les djihadistes qui aussi bombardaient régulièrement.
Est-ce qu'elles pouvaient refuser d'aller travailler à l'hôpital ?
Non, tous les employés de l'hôpital, beaucoup ont voulu arrêter. Et ceux qui ont pu le faire, c'est ceux qui se sont exilés, qui ont réussi à prendre la fuite avec des contrebandiers. Ceux qui étaient encore à Mossoul, s'ils ne venaient pas travailler, les djihadistes venaient chez eux, les menaçaient de les tuer s'ils n'étaient pas au travail le lendemain. Donc c'était impossible.
Les enseignantes à l'école ou à l'université, elles pouvaient continuer à travailler et dans quelles conditions ?
Oui, bien sûr, les enseignantes c'était pareil. L'État islamique avait besoin de ces enseignantes parce que les écoles sont séparées, filles, garçons. Donc il avait besoin d'enseignantes femmes, de directrices d'école pour continuer à ouvrir les écoles. Elles étaient sous la supervision d'inspecteurs du travail de l'État islamique. Elles avaient des programmes de l'État islamique. Elles avaient aussi parfois des enseignantes de l'État islamique qui leur étaient envoyées, qui avaient été formées. Donc elles se sentaient tout le temps observées, tout le temps menacées, sans non plus parler des enfants. Elles avaient aussi dans les élèves des enfants de djihadistes qui étaient les premiers à les rapporter à leurs parents si la maîtresse ne respectait pas le programme ou disait des choses un peu bizarres par rapport à ce que eux avaient appris à la maison.
Vous citez dans votre livre le cas d'une femme qui a tenté de créer, ou en tout cas de maintenir, un salon de coiffure, mais ça ne se passe pas très bien. Pourquoi ?
Oui, parce que c'est interdit, en fait. Le maquillage et les soins corporels de beauté sont interdits pour les femmes à Mossoul. C'est même écrit dans les textes, dans les décisions de l'État islamique. Donc, il n'y a pas de raison qu'une femme continue à tenir salon. Mais bien sûr, certaines l'ont fait. Elles organisaient, voilà, des salons informels chez elles. Il y avait aussi des négociations un peu avec certains membres de la police religieuse qui certainement prenaient de l'argent pour fermer les yeux. Mais cette femme, par exemple, a dû arrêter très vite parce que elle a été menacée elle-même. Mais c'est aussi son mari qu'on menace parce que souvent, c'est ce qui arrivait. Les femmes avaient aussi peur de ne pas bien respecter les règles, parce que souvent la personne qui était punie n'était pas la femme mais le tuteur. Donc c'est le mari ou le père qu'on prenait pour aller fouetter, voire pour exécuter. Donc voilà, cette femme s'est vue menacée que son mari soit fouetté, soit exécuté.
Est-ce que vous avez entendu des témoignages de femmes qui ont tenté de résister à cette pression de l'État islamique ?
Non, je pense que c'était très difficile de réellement résister. C'est de la résistance passive, comme on voit avec les salons pour les femmes. Après, il y a des résistantes dans le sens où certaines ont fait partie de réseaux qui passaient de l'information à l'extérieur à destination des forces irakiennes ou d'autres autorités pour cibler les maisons ou les institutions où les djihadistes se cachaient. Donc oui, il y a eu des femmes dans ces réseaux. Pas uniquement des hommes.
Quel a été le sort réservé aux femmes issues des minorités ? Je pense aux chrétiennes ou aux yézidis, par exemple.
Alors, les chrétiens, dès mi-juillet, ils ont eu trois options. On leur a dit, vous payez la jizya, donc qui est l'impôt pour les minorités, dans l'Empire ottoman, c'était déjà comme ça. Ils payent un impôt en tant que minorité pour avoir le droit d'être protégés par le gouvernant. Donc la jizya, l'exil ou la mort. Donc c'était assez clair. Beaucoup, bien sûr, avaient lu dans les textes sur l'Empire ottoman ce à quoi ramenait la jizya. Hein. Donc ils n'avaient pas envie d'être sous ce statut. Très peu se sont convertis. Beaucoup se sont exilés. Donc les chrétiennes ont en majorité échappé, en fait, à l'État islamique. Elles se sont exilées. Les yézidis, ça a été terrible. Les yézidis, c'est une minorité kurdophone qui a une religion qui est vieille depuis de 4000 ans, mais qui est considérée comme idolâtre et apostate par l'État islamique. Donc quand il y a eu la conquête des zones où vivaient les yézidis, principalement dans le Sinjar notamment, près de Mossoul, tout le monde a été arrêté. Donc les populations yézidis fuyaient, il y avait des points de contrôle djihadistes, ils arrêtaient tout le monde, ils mettaient les hommes d'un côté, pour beaucoup on ne les a toujours pas revus et on pense qu'on ne les reverra pas, qu'ils ont été tués. Les femmes ont été réduites en esclavage, donc comme esclaves sexuels, et les plus jeunes hommes ont été embrigadés comme lionceaux du califat pour en faire des combattants. Donc il y a beaucoup de femmes yézidis qui se sont retrouvées esclaves d'un maître, et qui étaient en plus pas d'un maître unique, mais souvent qui passaient d'un maître à l'autre, étaient revendus soit au bout d'une semaine, 3 mois, 6 mois. Donc c'est un destin terrible.
Vous racontez notamment en particulier l'histoire de Lina, cette femme que vous avez rencontrée dans un centre de réfugiés, c'était au Kurdistan irakien je crois.
Oui, Lina est sortie très tard, hein. Je l'ai rencontrée en juillet, si je me souviens bien, elle était sortie depuis 2-3 mois, donc elle s'est échappée de Mossoul parce qu'elle avait été revendue à un maître d'abord qui habitait une ville à 60 km au sud de Mossoul, mais qui avec l'avancée de l'offensive, toute la famille est allée à Mossoul et ils ont changé comme ça au gré de l'offensive de quartier en quartier. Et donc elle a suivi et elle a été libérée grâce à la bataille. Et Lina, c'était une histoire terrible parce qu'elle était réellement harcelée par son maître. Bon, bien sûr qu'il l'empêchait de sortir, mais qui était jaloux. Il y avait la jalousie des épouses légitimes également. Donc c'est une histoire terrible et aussi elle a eu chez elle des enfants, des petites filles et c'est la première fois dans l'interview où elle a pleuré. Elle me disait, je suis incapable de pleurer. Ça a été tellement dur, tout ce que j'ai vécu était tellement atroce que j'ai plus de larmes. Là, elle a littéralement pleuré parce que elle a été victime de viol, mais elle m'a dit ses petites filles de 5-6 ans étaient aussi victimes de viol et elles passaient la nuit avec le maître et certaines en sont mortes.
Alors, destin terrible pour ces petites filles et ces familles yézidis, mais est-ce qu'il y a des femmes à Mossoul qui se sont mises au service de Daesh ?
Oui, bien sûr. L'État islamique compte beaucoup sur les femmes, même si il n'en fait pas des combattantes. En tout cas, on n'a pas vu de combattantes femmes avant la fin de la bataille où il y avait des attentats suicides de femmes. Certaines femmes combattantes, très peu. Mais les femmes sont là pour éduquer la future génération. Donc c'est très important pour l'État islamique d'avoir avec lui ces femmes qui vont à la maison raconter des histoires le soir de djihad, du califat à leurs enfants, qui vont faire l'éducation de ces enfants, aussi servir leur époux combattant, propager l'idéologie. Donc oui, il y avait dans toutes les familles qui ont rejoint l'EI à Mossoul ou en Irak, le rôle des femmes était très important.
Et notamment aussi avec cette police des mœurs, avec des équipes féminines.
Oui, voilà, comme il y a une séparation des sexes obligatoire dans le califat, pour policer la population féminine, ils ont créé la brigade El Khansa, qui est une brigade de femmes qui va traquer uniquement les femmes. Elles sont elles-mêmes cachées sous un voile intégral, donc c'est traître, parce qu'on ne sait pas que ce sont des policières. Parfois, elles peuvent se fondre dans la masse et débusquer les contrevenantes. Et notamment, on l'a vu sur les punitions qui étaient imposées aux femmes qui ne respectaient pas la tenue vestimentaire imposée, donc le voile intégral, la voilette, les gants, les chaussettes. Si un bout de peau dépassait, ces femmes étaient armées de mâchoires en métal qui venait mordre les contrevenantes et qui occasionnait des blessures parfois mortelles.
Hélène Salon, est-ce que vous avez pu rencontrer certaines de ces femmes justement qui étaient pro-État islamique et qui ont notamment été dans ces brigades policières ?
Non, j'ai pas rencontré de femmes de la brigade El Khansa. Elles étaient une cible hein, parmi les djihadistes les plus recherchés. Maintenant, il y a les gens de la police religieuse. D'ailleurs, on pense qu'il y a aussi des étrangères hein, qui appartenaient à ces brigades et qui, si elles sont arrêtées, auront certainement la peine capitale en Irak. Donc, c'est des gens qui, je pense, cachent ce qu'ils ont fait, et on ne saura jamais qu'ils ont fait ça si on les rencontre.
Merci Hélène Salon, journaliste au quotidien Le Monde.
Merci.
À lire absolument « L'État islamique de Mossoul, l'histoire d'une entreprise totalitaire », c'est publié aux éditions de La Découverte.
Orient Hebdo sur RFI.
En complément de ce témoignage de la journaliste du quotidien Le Monde, Hélène Salon, voici ce que rapportait le père Patrick Desbois sur la façon dont Daesh avait procédé vis-à-vis des yézidis lors de sa conquête de Mossoul. Des récits recueillis lors de ses fréquentes visites dans les camps de réfugiés au Kurdistan irakien pour le compte de son association Yahad in Unum.
Elle raconte ce que fait Daesh lorsqu'ils arrivent dans les villages. Donc ils habitaient presque tous dans la même région autour de Sinjar, et lorsque les unités de Daesh arrivent, les villages sont encerclés par les voisins, qui sont souvent des gens qui appartiennent à des clans sunnites, qui ont fait un deal avant, et puis Daesh arrive et leur dit « convertissez-vous à l'islam, ne vous inquiétez pas, mettez un drapeau blanc, il ne va rien se passer ». Donc certains refusent de se convertir, d'autres se convertissent, et finalement tout le monde est convoqué à l'administration pour recevoir des nouveaux papiers d'identité. Et en fait, là, les portes se ferment à clé, et là commence la catastrophe, c'est-à-dire que des hommes entrent violents, ouvrent des sacs et demandent d'abord est-ce qu'on dépose tous les bijoux, toute la monnaie dans un sac différent, et surtout tous les téléphones. Et puis, ils vont arriver avec des docteurs qui vont arracher les nouveaux-nés aux familles, et ces nouveaux-nés vont disparaître à tout jamais. On apprend maintenant qu'ils sont confiés à des familles de Daesh. et ils vont sélectionner les jeunes filles les plus jolies, avec des docteurs aussi qui vérifient la virginité des filles, et ces filles vont être achetées par souvent un clan voisin qui va par grand nombre, qui va les emmener de prison en prison, puis les revendre à des combattants. Les femmes adultes, non, ne sont pas fusillées, elles sont emmenées avec leurs enfants, elles vont devenir soit servantes, on appelle ça radima, soit servantes de famille de Daesh, soit elles vont être aussi esclaves sexuelles malgré le fait qu'elles soient mariées, et ou bien servir de bouclier humain lors des bombardements.
Et dans les camps de réfugiés où vous êtes allés, quel est le sentiment général qui ressort de vos entretiens ?
D'abord, les personnes veulent que la vérité se sache, donc elles racontent, ce sont de longs entretiens où elles racontent depuis le jour de l'arrestation jusqu'à la première revente. Aujourd'hui, une fille qui a été achetée a été revendue au moins à 15 hommes différents qui l'ont violée par eux-mêmes ou par leur famille, puis revendue. Elles connaissent le prix de chaque revente. Et puis certaines ont eu des sorts à part. Il y en a une, par exemple, qui a été achetée par un Tadjik. Elle a été enfermée un an dans des caves à Raqqa et il lui disait, j'aime voir souffrir les filles yazidis. Puis il l'a vendue à un autre Tadjik qui lui l'a violée en l'attachant à un mur. Puis elle était réemprisonnée dans cette cave. Et cette fille, par exemple, maintenant a du mal à parler, est très traumatisée. D'autres filles ont connu un sort très différent. Elles ont été achetées par une autorité de Daesh. Je connais une femme, une jeune fille qui a été achetée par un juge islamique qui appliquait les tortures dans l'ensemble des prisons du territoire de Daesh. Donc tous les matins, il partait à 8h du matin en voiture et il se rendait dans une prison et elle était assise à côté de lui, elle était avec le visage couvert évidemment. Et elle assistait à toutes les tortures, l'eau, l'électricité, choisissait les prisonniers. Et à la fin, son mari décidait ou pas de la peine de mort. Et rien que dans la ville d'Alep, son mari a fait décapiter 75 personnes auxquelles elle a dû assister. Elle a aussi assisté à la crémation du pilote jordanien qui était brûlé vivant dans une cage. Et pour ces gens, c'est vraiment très lourd de parler parce que elles viennent de sortir, elles sont très traumatisées. Mais elles veulent que ça se sache et elles veulent que justice soit rendue. Tout appel à la justice.
Car ces réfugiés ont pu se quitter par exemple Mossoul ou la région depuis la libération de certains quartiers de la ville.
Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire ce sont des clans qui les raptent et après ils permettent une coup de fil entre elle et la maman et ils disent voilà, c'est 15 000 dollars si c'est un garçon et c'est 25 000 dollars si c'est une fille. Donc la famille doit emprunter de partout et par des passeurs envoyer l'argent et la fille revient. Non, personne n'est libéré, tout le monde est vendu. Ils sont vendus à un système de passeurs. Les passeurs, ça démarre localement. Et puis, de passeur en passeur en passeur en passeur, ils obtiennent la famille. J'ai assisté à plusieurs, ce qu'on appelle des libérations. Mais en fait, ce sont des reventes. Je n'ai pas vu personne qui s'est évadé naturellement.
Merci Patrick Desbois, prêtre catholique, fondateur de l'association Yahad in Umum, qui veut dire
« ensemble » en hébreu et en latin, et nous allons bientôt le mettre en arabe.
Je précise que votre enquête sur les yézidis a fait l'objet d'un livre, oui. « La fabrique des terroristes », publié chez Fayard.
Voilà, merci beaucoup.
Écrire orient.hebdo@rfi.fr.
Merci d'écouter régulièrement Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani. Retrouvez-nous sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Demain, nous plongerons dans l'univers des poètes iraniens avec le philosophe et orientaliste Dariush Shayegan, disparu en mars dernier. Émission diffusée une première fois en janvier. À demain. En attendant, voici le journal.